Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, en général, je suis quelqu'un de plutôt ouvert au changement. Mais il y a un domaine où j'ai longtemps été conservateur. C'est mon alimentation. Il faut dire que je suis lyonnais et libanais, et je viens de deux traditions culturelles qui n'aiment pas trop être bousculées. Le chiche taouk, c'est du poulet avec de la crème d'ail, et le saucisson brioché, c'est du saucisson, et c'est comme ça. Alors, quand j'ai compris que pour parvenir à changer de trajectoire et conserver une planète vivable, il fallait modifier en profondeur ma manière de manger, je suis passé par toutes les étapes du deuil. Le déni de mon empreinte carbone, la colère face au burger, le marchandage avec mon propre frigo, la dépression devant le chou-fleur vapeur. Et enfin, l'acceptation. Parce qu'en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un tas de recettes, à Beyrouth comme à Lyon, à la fois super bonnes et tout à fait compatibles avec notre avenir climatique. Du mjadra aux lentilles au quenelle, en passant par la soupe à l'oignon gratiné et le kebbé de courge. Si vous écoutez ces podcasts jusqu'au bout, vous savez précisément de quoi je parle. Le système alimentaire mondial pèse pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Si on met bout à bout la production agricole, les engrais azotés, le méthane produit par les vaches, la transformation des aliments, la consommation de viande, les importations, le gaspillage. Une chose est certaine, tous les scénarios de transition passent par un changement de nos modes d'alimentation, et en particulier dans les pays les plus fortunés. Sauf que c'est un débat super difficile, parce que c'est une sorte de combo géant. Il faut changer à la fois nos habitudes culturelles, mais aussi nos organisations familiales, des modèles économiques et sociaux, réfléchir à des questions éthiques et faire des choix rapides de politique publique. Dit comme ça, c'est à peu près aussi facile que convaincre mon fils de 3 ans de manger des carottes. La bonne nouvelle, c'est qu'une alimentation qui ne détruit pas la planète peut aussi être meilleure pour notre santé et même une source de joie collective. Pourquoi notre alimentation pose problème pour notre avenir? Que doit-on changer dans notre manière de nous nourrir? Est-ce qu'il faut tous devenir végétariens? Comment faire pour manger mieux pour nous et pour notre environnement? Voilà, c'est de tout cela dont on va parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Manon Dugré est coordinatrice de la chaire Alimentation, Nutrition et Comportement Alimentaire à l'école AgroParisTech. Elle est l'autrice, avec sa collègue Aurélie Zunino, de la BD Je mange pour le futur aux éditions Ulmer et du compte Instagram du même nom. Mais elle est aussi à mi-temps en cuisine dans un restaurant en région parisienne. Bonjour Manon Dugré.
Bonjour Nabil.
Alors, si on peut commencer par le début, notre système alimentaire en France, il a une empreinte carbone qui est très importante. Pourquoi ?
On sait qu'on va devoir changer parce que notre système alimentaire, il va devoir répondre à des enjeux liés au dérèglement climatique, à la biodiversité, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Donc, la première chose, c'est effectivement son impact en termes d'empreinte carbone qui participe grandement au dérèglement climatique. On parle de un tiers des émissions carbone à l'échelle du globe. D'après le Haut Conseil pour le climat, on parle d'environ 22% à l'échelle de la France. Donc, c'est vrai que le système alimentaire a une responsabilité dans le dérèglement climatique qui est vraiment très important. Il n'y a pas que sur le dérèglement climatique que notre système alimentaire a un impact, il y a aussi sur la biodiversité. De par, en fait, l'agriculture, quand elle est faite de manière intensive, elle érode grandement la biodiversité. Donc, la production agricole, c'est 80% de la déforestation. C'est une perte de 70% de la biodiversité et 70% de l'utilisation en eau. Donc, pourquoi est-ce qu'elle érode la biodiversité ? Pour plusieurs raisons. Donc déjà, l'agriculture, quand elle est faite de manière intensive, détruit les habitats, tout simplement, du vivant, en convertissant les habitats en terres agricoles, par exemple, en supprimant, par exemple, les haies aux alentours des champs, en supprimant les jachères, en polluant les milieux, donc notamment en polluant le sol, l'air, l'eau, et notamment via l'utilisation d'herbicides, de pesticides, etc., et en diminuant la variété des cultures, ce qui diminue aussi la biodiversité à l'échelle globale.
Mais alors, on avait parlé ici avec la chercheuse Karine Barbier dans un épisode consacré à la viande, de l'impact carbone de la viande et de l'alimentation carnée. Quelle place ça occupe là-dedans, dans cette empreinte carbone, cet effondrement de la biodiversité lié à nos pratiques alimentaires, lié à nos pratiques agricoles? Est-ce que le fait qu'on mange beaucoup de viande, c'est ça qui a le plus gros impact?
Oui, c'est vrai que la viande est souvent pointée du doigt à la fois sur les impacts sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Et tout simplement, en termes d'émissions carbone, on sait que l'élevage, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde. Donc, c'est vraiment énorme. Et si on veut changer notre alimentation, un des premiers leviers, ça va être de réduire sa consommation de viande. D'où viennent ces émissions, très concrètement? D'une part, c'est par la fermentation entérique, donc les ruminants, de par la digestion, en fait, émettent un gaz à effet de serre qui s'appelle le méthane, qui est 23 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Ça émet également du méthane de par les déjections animales et aussi par l'alimentation qui est nécessaire pour nourrir les troupeaux, à la fois pour leur production, mais aussi pour leur transport jusqu'aux troupeaux.
Alors justement, sur la question du transport, c'est intéressant parce que très souvent, on a l'impression qu'une meilleure alimentation, en tout cas d'un point de vue environnemental, c'est une alimentation locale. Est-ce que c'est nécessairement vrai? C'est-à-dire, est-ce que manger local, ça a forcément moins d'impact sur la planète parce qu'on économise le transport et donc le fait qu'il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre ou des destructions de l'environnement liées au fait de transporter depuis l'autre bout de la planète des denrées alimentaires?
Le manger local fera partie de l'équation, mais c'est vrai que quand on veut agir sur l'impact écologique de notre alimentation, c'est vraiment un facteur qui reste très marginal parce que ce qui rentre en compte sur l'impact écologique d'un aliment, c'est la manière dont il a été produit. Ça représente 60% de l'empreinte carbone de notre alimentation, alors que le transport en France, c'est uniquement 6%. D'après les estimations, ça peut aller jusqu'à 14%, mais du coup, c'est vraiment pas comparable avec le poids que représentent les modes de production. Après, ça représente quand même des intérêts. Le manger local, c'est quelque chose qui a pris une part vraiment importante, notamment pendant le confinement, où les consommateurs, en fait, ont eu envie de se réapproprier leur alimentation. Donc, ça recrée un lien social et ça leur permet de se reconnecter avec la manière dont les aliments sont produits, avec du coup en ayant une information et plus de confiance envers cette alimentation. Ça permet d'avoir plus d'infos aussi tout simplement sur les modes de production. On réduit les intermédiaires et du coup on a un accès plus simple à cette information. Ça permet aussi de restructurer les filières agricoles, de redynamiser la filière et de maintenir les emplois, ce qui n'est pas négligeable quand on connaît la situation de la perte, du non-renouvellement des emplois dans le monde agricole.
Enfin, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de dire en même temps il faut manger moins de viande et il faut revitaliser les filières agricoles locales alors qu'on sait que la France, c'est un gros producteur de viande et notamment d'élevage bovin. Est-ce que ça peut se conjuguer?
Je pense que ça peut tout à fait se conjuguer, mais c'est sûr que ça nécessitera des transformations profondes, à la fois sur les habitudes de consommation, mais aussi sur le système global qui effectivement repose en grande partie sur l'élevage. Et c'est d'autant plus vrai en France où l'élevage est particulièrement important. Donc ça veut dire des changements à l'échelle des politiques publiques, une redirection des subventions de la PAC pour valoriser d'autres types de production, de favoriser et d'aider les agriculteurs à une conversion de leur métier vers d'autres produits, par exemple vers les légumineuses. Et donc ça se fera pas comme ça, c'est sûr.
Alors vous venez de parler des légumineuses, c'est quoi une alimentation qui serait durable? Vous parlez par exemple dans « Je mange pour le futur » d'une alimentation qui est plus diversifiée, ça veut dire quoi en fait?
C'est une alimentation qui comporte 4 dimensions. Elle doit permettre l'accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour les générations actuelles et futures, donc ça c'est l'aspect vraiment santé et nutrition. Elle doit permettre de préserver les ressources naturelles et les écosystèmes, donc ça c'est l'aspect environnement auquel on pense toujours en premier lieu. Et il y a 2 autres dimensions qu'on a tendance un peu à oublier, c'est l'accessibilité économique. Elle doit vraiment être accessible à tous et aussi permettre une meilleure rémunération des producteurs. Et le dernier point, c'est qu'elle soit culturellement acceptable, donc ne pas faire des recommandations qui soient complètement à côté de la plaque par rapport à nos habitudes alimentaires.
Et ça veut dire prendre en compte aussi les traditions culinaires qui existent, notre manière de manger pour réfléchir à des scénarios de transition?
Oui, on doit prendre en compte les habitudes alimentaires. Si on propose aujourd'hui de changer radicalement d'alimentation, c'est des changements qui ne seront pas opérants pour les populations. Ce ne sera pas réaliste.
Parce que cette idée d'alimentation durable, on comprend bien ce que ça veut dire en théorie, mais en pratique, dans l'assiette, pour un certain nombre de gens, ça peut être perçu un peu comme un retour en arrière. On mange de la viande uniquement aux grandes occasions, et puis le reste du temps, on mange de la soupe de légumes, un peu comme faisaient peut-être nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là?
Alors, peut-être que c'est un avis personnel, mais je vois rien de négatif là-dedans, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup de bon sens dans la manière dont on s'alimentait il y a quelques dizaines d'années et qu'on a quand même perdu ce bon sens. La consommation de viande, elle a complètement été banalisée ces 50 dernières années. Après l'industrialisation, en fait, on est passé de 75 kilos par personne et par an, où on avait une alimentation qui était quand même largement concentrée sur les céréales, sur les légumineuses, sur les fruits et les légumes, à une consommation en 1990 de plus de 100 kilos par personne et par an, où là, la viande est devenue vraiment hyper présente à tous les repas, très centrale dans l'assiette, etc. Donc ça, c'est un changement qui est quand même relativement récent. Et même si ça a légèrement diminué depuis les années 90, c'est quelque chose qui ne diminue plus aujourd'hui. Consommer et s'inspirer de ce qu'on faisait dans le passé, je trouve pas ça négatif, dans le sens où on faisait des choses très bien dans le passé. Et c'est super intéressant d'aller s'inspirer justement de ce qui se faisait avant et aussi ailleurs dans le monde. On voit par exemple que dans les recettes traditionnelles, il y a très fréquemment une association entre légumes secs et céréales, ce qui permet en fait, quand on les combine, d'avoir des apports en protéines et en acides aminés essentiels qui sont parfaits en fait, et qui permettent d'être équivalents à ce qu'on peut avoir avec la viande. Peut-être que oui, il va falloir se tourner notamment vers plus de légumes secs. On a divisé notre consommation par 4 ces 20 dernières années, alors que c'est un aliment qui coche vraiment toutes les cases quand on parle d'alimentation durable. C'est bon pour la santé, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines, c'est riche en micronutriments. C'est super intéressant d'un point de vue environnemental, ça fixe l'azote de l'air dans le sol et ça améliore la fertilité des sols. Quand on fait une rotation des cultures, tout simplement, ça va être meilleur pour les cultures qu'on va cultiver après. C'est économique, ça se stocke facilement. Enfin, vraiment, c'est super intéressant. Au lieu d'aller peut-être se tourner vers des alternatives à la viande qui font le buzz aujourd'hui, parce qu'on parle de manger des insectes, de manger des steaks in vitro, d'aller manger des substituts à la viande qui imitent parfaitement la texture, le goût de la viande. En fait, je pense que c'est pas ça les solutions de demain et qu'en fait, on a des solutions qui existent et qu'on n'a pas besoin de réinventer et qui sont là depuis toujours et qu'il suffit juste de s'y intéresser un petit peu à nouveau et de juste savoir se les réapproprier et de développer un peu plus nos compétences qu'on a un petit peu perdues avec le temps.
Alors, vous l'avez dit, sur la consommation de viande en France, en réalité, la consommation, elle diminue pas vraiment. Elle reste assez stable. On a l'impression que ça fait partie des sujets sur lesquels c'est très difficile de faire changer les habitudes, nos habitudes alimentaires. Qu'est-ce qui vous semble être le principal point bloquant là-dessus? Qu'est-ce qui fait que, c'est un sujet aussi épineux?
Quand on parle d'habitudes alimentaires, on parle de routines et d'habitudes qui sont très ancrées dans les comportements. Donc, c'est très difficile de modifier ces habitudes. Quand on nous dit « la situation est urgente, il faut changer nos comportements pour des raisons de durabilité », ça parle à notre cerveau conscient, alors que la plupart de nos choix, en fait, se font totalement de manière inconsciente. Après, il y a tout un tas de freins qui fait qu'on ne peut pas changer comme ça notre alimentation. Les individus, en fait, ils sont dans un système avec de nombreux facteurs qui agissent à plusieurs niveaux, à l'échelle individuelle, à l'échelle environnementale et sociale, et au niveau plus lointain, politique par exemple, qui vont venir faire autant de freins aux modifications de leur alimentation. À l'échelle individuelle, il y a quelque chose qui me semble assez important. En termes de connaissances, les consommateurs, je pense, sont complètement perdus parce qu'il y a une vraie cacophonie de l'information sur le sujet de l'alimentation santé et de l'alimentation durable. Et nous, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est vraiment un lieu où on entend vraiment tout et son contraire sur l'alimentation. On a de plus en plus d'individus et de structures en fait qui se positionnent comme des prescripteurs. Donc, on va avoir des influenceurs food qui prônent tel ou tel régime sans bagage scientifique. Il va y avoir aussi les marques qui utilisent de plus en plus le marketing digital et qui vont aussi transmettre des messages. Donc, très concrètement, moi, en tant que consommateur, comment je priorise mes combats, sachant que déjà, en termes de connaissances, je suis un petit peu perdue. La deuxième chose pour moi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de croyances et d'idées reçues sur le sujet, donc auxquelles participe aussi toute cette cacophonie dans les médias. En fait, l'alimentation durable, et notamment une alimentation qui se veut plus végétale, elle est vue comme quelque chose qui est très contraignante. On a l'impression que ça va nous demander de passer 2 heures en cuisine tous les jours, que ça va nous demander de dépenser beaucoup plus. L'alimentation végétale, on a l'impression que ça va nous donner des carences, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à jouer sur ces croyances pour que demain, on puisse adopter une alimentation.
Alors, on peut peut-être revenir sur ces points-là, parce que je pense qu'ils sont vraiment importants, et notamment celui sur l'équilibre alimentaire, sur l'aspect nutritionnel. Et c'est vrai que moi, je reçois beaucoup de mails d'auditrices et d'auditeurs sur ce sujet-là, en disant, j'essaie d'être végétarien, j'essaie de diminuer la viande un maximum, mais en fait, j'ai peur que mes enfants n'aient pas suffisamment de protéines animales, n'aient pas un bon équilibre alimentaire. Est-ce que vous, dans le travail qui a été mené aussi par la chaire dans laquelle vous travaillez, dans le travail qui est fait à AgroParisTech, est-ce qu'on peut avoir un bon équilibre alimentaire sans viande ?
Si on prend un individu qui est en bonne santé, c'est-à-dire sans prendre en compte des populations fragilisées, comme les personnes âgées, par exemple, qui ont des besoins nutritionnels vraiment spécifiques, il n'y a aucun risque à adopter un régime végétarien tant qu'on a une alimentation diversifiée. Et c'est vrai que nous, on prône vraiment cette diversité dans les assiettes parce que, alors pour plein de raisons, mais sur les aspects nutritionnels, ça permet d'assurer des apports nutritionnels qui sont vraiment adéquats avec nos besoins. Et après, il y a plein d'autres avantages de diversifier nos consommations vis-à-vis de l'environnement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Pardon, mais juste pour bien comprendre, diversifier le contenu de notre assiette, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire, alors déjà, consommer toutes les catégories d'aliments, donc ne pas supprimer telle ou telle catégorie, et ça va être diversifier, par exemple, les espèces ou les variétés qu'on consomme. Donc, par exemple, si on prend le cas de, du monde végétal, c'est important d'aller consommer des fruits et des légumes, des céréales, des légumineuses, et de varier les variétés qu'on consomme. En termes d'intérêt sur la biodiversité, c'est vraiment énorme parce qu'on a vraiment réduit notre répertoire alimentaire. Sur les 6000 espèces que l'on cultive dans le monde, il y en a uniquement 9 qui assurent les 2/3 de la production mondiale. Donc ça veut dire vraiment qu'on a mobilisé toutes nos ressources sur seulement 9 espèces de plantes. On surconsomme en fait certaines variétés, le blé, le riz et le maïs. On surconsomme ces 3 céréales, ça représente 50% des calories ingérées dans le monde. Donc on a vraiment réduit notre répertoire et c'est très dangereux parce qu'en fait, on met vraiment tous nos œufs dans le même panier. Et quand on réduit comme ça les productions à quelques monocultures, on met complètement en péril la sécurité alimentaire et la résilience de nos systèmes alimentaires. On sait que, par exemple, que le blé est très sensible aux épisodes de sécheresse, alors que l'épeautre, lui, y est beaucoup plus résistant. De la même manière, il y a des bioagresseurs qui se développent, d'autant plus avec le dérèglement climatique, avec les températures qui augmentent, etc. Si ça décime toute une culture et qu'on n'a qu'une culture à proposer, on comprend bien que ça met en péril la sécurité alimentaire.
Ça, je comprends bien que là-dessus, on prend plus de risques. Je voulais revenir quand même sur un point, parce qu'on a parlé de l'alimentation végétarienne, mais est-ce qu'une alimentation végane, c'est-à-dire sans aucun produit qui provient d'animaux, est-ce que ça peut aussi être une alimentation équilibrée ?
Sur les régimes véganes, il faut porter un petit peu plus d'attention. Nous, on conseille vraiment d'être accompagné d'un médecin quand on veut adopter un régime végane. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça nécessite notamment des supplémentations sur certaines vitamines, notamment la vitamine B12, qui peut pas être apportée par une alimentation végane.
Et alors, il y a une autre idée reçue sur laquelle vous êtes revenu, c'est l'idée que cuisiner plus végétal, ça prend forcément beaucoup plus de temps. Bon, moi, dans ma vie, j'ai l'impression que ça me prend quand même beaucoup plus de temps pour faire à manger à mes enfants que quand je fais que des légumes, si je fais pas de viande, pas de poisson, et qu'il faut faire une salade, une quiche, je sais pas quoi, enfin voilà, un truc qui soit à la fois bon et uniquement végétal. Est-ce que c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire quand on veut cuisiner plus de produits végétaux, on a besoin de plus de temps ?
Je pense que c'est en partie vrai et c'est pour ça que c'est vraiment important pour des organismes comme les nôtres, justement, de pouvoir développer les compétences culinaires pour mieux savoir cuisiner le végétal parce que, comme je disais, c'est vraiment des compétences qu'on a un petit peu perdues. Si on prend le cas des légumes secs, il y a des solutions très simples comme opter pour des légumes secs en conserve ou en bocaux, par exemple. Pour le coup, faire un houmous avec des pois chiches en boîte, ça demande vraiment pas beaucoup de temps. Donc, il y a plein de solutions qui existent. Il faut juste réussir à redonner un petit peu ces automatismes en cuisine qu'on a un petit peu perdus.
Moi, jamais je n'avouerais faire du houmous avec des pois chiches en boîte pour des raisons évidentes, même si c'est parfois le cas. Mais il y a quand même aussi une question qui est que dans la répartition des tâches à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur d'une famille, par exemple, le fait de devoir faire plus à manger à la maison plutôt que d'acheter des produits ultra transformés, par exemple, de faire plus de végétal que de produits animaux, souvent, en fait, dans l'équilibre familial, ça retombe plus souvent sur les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour en arrière, c'est-à-dire que dans la répartition des tâches, finalement, ce soit plus les femmes qui se retrouvent à faire plus à manger, à avoir, en plus de la charge mentale qu'elles ont très souvent dans le foyer, une sorte de charge mentale écologique supplémentaire.
Sur la question du fait maison, en fait, il n'y a pas forcément un consensus énorme sur le fait de consommer du fait maison va être meilleur, va être plus durable, va être meilleur pour la santé, etc. Donc c'est vrai que, premièrement, c'est intéressant de se poser cette question-là et c'est une question justement qu'on s'est posée dans Je mange pour le futur, tout simplement pour peser le pour et le contre de consommer maison versus manger des produits transformés parce qu'on sait très bien que les produits transformés font partie de notre alimentation et ce serait pas crédible de se dire que demain on va complètement arrêter d'en manger et que même c'est peut-être pas très grave finalement d'en manger. Donc aujourd'hui, on sait que les aliments transformés, ça représente 50% en masse des régimes des adultes et 70% de celui des enfants. Donc c'est vrai que c'est très présent dans nos habitudes alimentaires. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que consommer des produits transformés, en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, ça nous éloigne de notre alimentation et on ne sait plus comment notre alimentation est produite parce que l'agroalimentaire fait que, bah, en fait, on a moins d'informations sur les ingrédients, sur la production des aliments, leur transformation. Par contre, il y a une grande diversité dans ces aliments transformés. Il y a des aliments transformés qui ont subi finalement assez peu de transformation. Et par contre, il y a une catégorie qu'on appelle les produits ultra-transformés. On sait qu'il y a un impact négatif sur la santé. C'est des produits qui sont vraiment plus riches en gras, en sucre, en sel, qui sont généralement dépourvus de fibres, etc. Le fait maison, je suis quand même intimement persuadée que ça a un énorme intérêt, tout simplement parce que je pense que ça redonne énormément de valeur à notre alimentation et qu'il y a un peu un cercle vertueux quand même quand on cuisine. Alors après, ça peut être cuisiné, ça peut être aussi une cuisine d'assemblage. On n'est pas obligé non plus de tout cuisiner. On peut utiliser déjà des aliments qui sont transformés pour faciliter. Mais rien que le fait de participer à cet acte de la cuisine, de la transformation des aliments, ça permet de se réapproprier son alimentation. On a déjà plus d'informations sur les ingrédients bruts. Ça nous reconnecte quand on cuisine une tomate qui n'a pas de goût. Je pense que ça nous marque plus et du coup, on peut peut-être être plus à même de se demander comment a été cultivée cette tomate, est-ce qu'elle est de saison, etc. Je pense que ça permet de valoriser évidemment l'estime de soi, le lien social. Il y a vraiment cette importance de la transmission intergénérationnelle sur la cuisine qui est quand même vraiment très chouette. Ça permet de limiter le gaspillage. On sait bien qu'un plat qui a été cuisiné par sa grand-mère, je dis n'importe quoi, on va être moins à l'aise pour le jeter à la poubelle parce qu'on justement on lui a donné plus de valeur à ce plat. Et ça, c'est vraiment le fait qu'il ait été cuisiné par quelqu'un de proche qui lui donne plus de valeur. Ça permet aussi de faire des économies sur les ingrédients bruts, le fait de faire soi-même la transformation. Mais par contre, il y a effectivement le temps passé à cuisiner qui rentre en compte. Et c'est là que finalement, on ne sait pas si cuisiner maison va nous permettre de faire des économies. Parce que si on prend en compte le coût de l'énergie et le temps passé, et si ce temps passé était budgété, on se rendrait compte que finalement, ça coûte quand même assez cher. Et malheureusement, comme vous le disiez, en fait, 75% de ce temps passé à cuisiner est réalisé par les femmes aujourd'hui. Donc ça veut dire que tant que les rapports hommes-femmes n'évolueront pas, toute recommandation des pouvoirs publics à inciter à manger du fait maison, ça sonnera comme une injonction supplémentaire qui pèsera sur les épaules des femmes.
Mais d'une manière générale, dans toute cette transformation de notre alimentation, cette question des injonctions, elle est assez importante et elle est parfois contradictoire, voire contre-productive, parce que parfois, on a l'impression que plus les pouvoirs publics ou des institutions vont dire aux gens, en fait, vous ne mangez pas comme il faut, vous mangez d'une manière qui est dangereuse pour votre santé ou pour votre environnement, qu'il y a des parties entières de la population avec qui ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce que vous, par exemple, dans votre expérience avec le compte Instagram Je mange pour le futur ou avec la sortie de la BD, vous avez eu aussi un peu ce type de retour ?
Oui, franchement, c'est un de nos enseignements, je pense, de ces 10 années de transmission et de sensibilisation à l'alimentation durable. C'est vraiment de communiquer de manière non injonctive. C'est vraiment primordial si on veut avoir un impact sur les gens. C'est effectivement de ne pas avoir un discours moralisateur. Et ça, c'est central dans nos projets et ça a été central dans le projet « Je mange pour le futur ». On a vraiment mis en scène du coup ce personnage fictif de Sacha qui pas du tout un parcours linéaire par rapport à la transition. On montre que elle aussi elle a des échecs comme nous tous en tant que consommateurs, elle teste des choses mais c'est pas toujours effectif. Par exemple, quand on la voit cuisiner des légumes secs et se retrouver avec une bouillie infâme qui est pas du tout appétissante et du coup c'est montrer aussi ces échecs là.
Alors, il y a un autre sujet dont vous avez un peu parlé, qui est la question du prix que ça coûte. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette vision souvent qu'une alimentation de meilleure qualité pour soi-même et pour l'environnement, c'est aussi une alimentation qui est plus chère. Est-ce que c'est possible de manger plus durable sans que ça nous coûte beaucoup plus cher ?
Ce qui est sûr, c'est que bien s'alimenter, ça coûte plus cher. Ça, je pense qu'on peut être à peu près sûr sur cette conclusion. Il y a vraiment un consensus là-dessus. Après, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, nous, à la Chère Anka, c'est justement de voir comment est-ce possible d'avoir une alimentation durable qui coûterait globalement pas beaucoup plus cher. Il y a une étude de l'INRAE de Montpellier qui est particulièrement intéressante là-dessus. En fait, ils ont observé les consommations d'un panel de Français et ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà un Français sur cinq au sein de ce panel qui avait déjà une alimentation durable. Une alimentation qui émettait 20% en moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils ont regardé très concrètement ce que mangeait cette population et ils ont vu que c'était notamment une population qui avait fait ce rééquilibrage et qui consommait notamment plus de produits végétaux et moins de produits animaux, moins de produits gras, moins de produits transformés, moins de boissons alcoolisées et sucrées également. Et cerise sur le gâteau, ils se sont rendus compte que le panier moyen de ce 1 Français sur 5 qui avait une alimentation durable était égal, voire légèrement inférieur que le coût moyen de ceux qui avaient une alimentation conventionnelle. Il était de 6,20 € par personne et par jour contre 6,70 € pour l'alimentation plus conventionnelle. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment un super espoir en fait, de voir que ça peut coûter pareil, voire moins cher qu'une alimentation conventionnelle et que c'est possible à certaines conditions et notamment, comme je le disais tout à l'heure, à condition d'un rééquilibrage, en consommant moins de produits animaux, on fait des économies. C'est vraiment l'achat de la viande, c'est vraiment le premier poste dans le budget alimentaire aujourd'hui. Donc, si on réduit ça, on peut faire des économies et on peut réinjecter ces économies vers, par exemple, l'achat de produits qui ont été produits de manière plus écologique, qui généralement coûtent un petit peu plus cher. Après, 6,20 €, ça reste inaccessible pour une grande partie de la population. On sait aujourd'hui que en dessous de 4,20 €, c'est déjà quasiment impossible d'avoir une alimentation qui soit juste une alimentation santé, bonne pour la santé. Donc, c'est une réalité, cette alimentation durable. Aujourd'hui, elle n'est pas accessible pour une grande partie de la population. À l'échelle de la planète, c'est encore plus vrai. On sait qu'il y a 3 milliards d'individus dans le monde qui n'ont pas accès à une alimentation en qualité et en quantité suffisante.
Alors vous, est-ce que vous avez des trucs pour donner aux gens à la fois l'envie et le courage de se mettre à transformer même leur alimentation? Comment vous y prenez pour mettre les gens sur la bonne voie?
On essaye vraiment d'avoir un discours qui est validé scientifiquement, ce qui me semble très important dans un objectif de recrédibiliser en fait ce sujet sur des réseaux sociaux où, comme je le disais, on a énormément d'idées reçues qui sont véhiculées. Donc c'est vrai que voilà, nous on s'entoure d'experts pluridisciplinaires parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très complexe. Donc par exemple pour Je mange pour le futur, on a vraiment été accompagné d'un comité d'experts avec à la fois des experts en nutrition, des experts de l'élevage, des experts en psychologie, etc. pour nous permettre d'identifier les messages qu'on voulait transmettre. L'objectif c'est que les personnes repartent avec une aide concrète et un regard critique sur nos systèmes alimentaires. Donc c'est à la fois effectivement de dire voilà nos systèmes alimentaires tels qu'ils existent aujourd'hui, leur montrer quelles sont les faiblesses et ensuite leur montrer quels sont les leviers, les pistes d'action qui sont disponibles à leur échelle de consommateur.
D'accord, et quels sont ces leviers alors?
Le premier, c'est vraiment ce rééquilibrage entre produits animaux et produits végétaux et c'est vraiment là-dessus qu'on communique énormément parce que à la fois en termes d'impact sur les émissions carbone, c'est génial en fait. Si on arrive à faire ce shift et adopter massivement une alimentation flexitarienne, on sait qu'on peut diminuer de 30 à 40% nos émissions carbone. Donc en termes d'impact, c'est énorme. En plus, ça se fait à l'échelle de l'assiette. Donc c'est vrai que j'ai l'impression quand même que ça reste à la portée des consommateurs de faire ce choix d'augmenter la part des produits végétaux. Le deuxième levier qui me semble essentiel, c'est celui de valoriser des modes de production qui sont respectueuses de l'environnement, de la biodiversité. Ça, je pense que c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours l'information. Donc là aussi, c'est important de pouvoir développer les initiatives qui permettront d'avoir un meilleur accès à cette information. Et troisième levier qui me semble super important, c'est celui de la diversité. Introduire plus de diversité dans l'assiette. Et donc là, on a plein de choses à faire aussi. C'est par exemple, comme je le disais, valoriser par exemple les légumes secs, valoriser des variétés de céréales qu'on ne consomme plus, comme l'épeautre, et donner envie tout simplement aux gens d'aller vers ces variétés qui sont peu connues. Pilier joker dont on n'a pas parlé, c'est le gaspillage. Donc je pense que là, c'est vraiment du bon sens, mais on sait aujourd'hui qu'il y a un tiers de la production mondiale qui va à la poubelle avant même d'être consommée. L'ONU a parlé de 10 milliards de repas jetés par jour à l'échelle du monde. On voit bien que sans cette lutte contre le gaspillage, on aura du mal à répondre aux enjeux qu'on a cités précédemment.
Et alors, dans votre expérience à vous, qu'est-ce qui marche dans ces leviers-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples de discours ou de moments où, en fait, ça a bien fonctionné ? Par exemple, si on prend la question de rééquilibrer entre l'animal et le végétal, on sait que c'est une question qui crispe beaucoup, qui peut susciter des levées de boucliers. Voilà, quel type de discours vous pouvez avoir qui, justement, sont sans injonction et dans la nuance ?
La manière dont développent en fait nos programmes d'éducation, c'est déjà de commencer par une phase d'audit où on réalise des focus group et des ateliers où très concrètement on fait venir les gens, donc là les 18-35 ans à qui va s'adresser le programme qu'on est en train de développer, dans l'idée de comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs freins et leurs motivations à adopter une alimentation durable et quelles sont leurs contraintes, parce qu'on sait que c'est notamment une population qui a beaucoup de contraintes aujourd'hui. Il y a la contrainte budgétaire, on en a parlé plus tôt. Dans les 18-35 ans, il y a par exemple la population étudiante qui est de plus en plus concernée par la précarité alimentaire. Il y a aussi des contraintes matérielles, tout simplement, quel matériel on a à disposition. Et des contraintes en termes de freins et de motivation. Tout à l'heure, j'en parlais, il y a, dans les représentations, on a l'impression que l'alimentation durable, c'est quelque chose de contraignant. Donc, c'est vrai que la première chose, c'est de comprendre un petit peu tout ça. Quels sont les freins ? Ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas rattacher ces changements de comportement à l'idée d'adopter un comportement plus responsable. On cherche vraiment à montrer les bénéfices individuels que va permettre le changement d'alimentation. Donc, par exemple, sur le sujet des légumineuses, qui est un peu notre sujet chouchou, on va dire que oui, manger des légumes secs, en fait, ça va te permettre de faire des économies. Ça va faciliter l'acte alimentaire parce que tu peux toujours en avoir sous la main, ça stocke facilement et donc c'est hyper pratique. C'est hyper bon. Alors on va te donner super envie d'en manger en te donnant des recettes que tu n'as jamais testées. On va mettre des vidéos de recettes où concrètement on voit que ça a l'air bon, que ça fait voyager parce qu'on va aller s'inspirer de telle ou telle culture alimentaire sans forcément mettre en avant que manger plus de légumes secs, c'est durable. Et il y a quelque chose que je trouve assez inspirant sur ce qui se fait actuellement sur la mode. Il y a vraiment eu un changement de norme où, en fait, les vêtements de seconde main sont devenus quelque chose de très désirable. Alors que quand moi, personnellement, j'étais enfant et que j'allais faire des bourses aux vêtements, etc., c'était super mal vu. Jamais j'aurais osé en parler. Alors qu'aujourd'hui, acheter des vêtements de seconde main, c'est quelque chose qui est vraiment super à la mode. Et je pense que l'aspect durable de cette habitude de consommation, elle n'est pas mise en avant en premier lieu, en fait. C'est vraiment en filigrane. Je pense qu'il faut faire pareil sur l'alimentation.
Ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est un changement de référentiel culturel. Or, en fait, l'alimentation, ça occupe beaucoup, beaucoup de place dans nos référentiels culturels. C'est les moments qu'on passe en famille, c'est les moments qu'on passe avec ses amis, c'est de la tradition historique de territoire, tout ça. Et donc, ça, c'est quand même assez difficile à changer. Est-ce qu'il y a des cadres qui peuvent aider à changer ça ? Je pense par exemple à la restauration collective ou les restaurants. Vous êtes aussi en cuisine dans un restaurant. Est-ce que on apprend aujourd'hui aux chefs, que ce soit dans les cantines scolaires ou dans les restaurants, à cuisiner autrement, à mettre plus de légumineuses, moins de viande? Est-ce que ça existe?
Ce qu'on essaye de faire, nous, avec le Je mange pour le futur, où on a imaginé un peu ce personnage fictif qui est une jeune femme de 26 ans dans lequel on peut s'identifier, c'est de proposer effectivement un imaginaire qui soit positif, sans tomber dans l'utopie. Et en fait, en mettant en lumière cette nouvelle manière de s'alimenter, on essaye vraiment de donner envie. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant le goût, le plaisir alimentaire. Et honnêtement, c'est pas très compliqué. L'alimentation, c'est ça. C'est vraiment du plaisir en premier lieu. On met en avant aussi la découverte. On va pas dire « réduis ta consommation de viande ». On va dire « t'as vu la diversité qu'il y a actuellement dans le monde du végétal ? Il y a plein de choses à découvrir, plein de nouvelles recettes à tester et plein d'aliments que t'as pas consommé encore jusque-là ». Et c'est vrai que je pense que les chefs sont super bien placés pour justement faire cette démonstration qu'une alimentation plus durable et notamment plus végétale peut être quelque chose de très désirable et de gustativement intéressante. C'est quelque chose sur lequel on s'est pas mal appuyé, notamment dans la dernière campagne qu'on a diffusée, qui était vraiment centrée sur la consommation de légumes secs. J'ai contacté plein de chefs, de jeunes chefs et pas mal de jeunes chefs qui sont très engagés sur l'alimentation durable et qui font cette démonstration tous les jours, en fait, que en fait, ça peut être super bon juste de manger des légumes secs, etc. Par exemple, si on regarde l'exemple de l'émission Top Chef, je pense que c'est assez intéressant. C'est quelque chose de très médiatisé. Et c'est vrai que les émissions culinaires, en général, ont un énorme succès aujourd'hui, depuis plusieurs années. On voit de plus en plus, à la fois, des candidats qui se font écho en fait, de valeurs et d'engagement sociétal par rapport à ces enjeux du dérèglement climatique, de la cause animale, etc. Je me souviens d'Adrien Cachaud, d'il y a quelques années, qui s'était vraiment distingué en cuisinant particulièrement les abats. Ça, je trouve ça super intéressant parce que nous, on pense que pour manger moins et mieux de la viande, il faut valoriser, par exemple, l'intégralité de l'animal. Bon, bah, si aujourd'hui, on a un chef qui passe en Top Chef et qui montre que cuisiner les abats, c'est vraiment trop bien et super bon. Je pense que c'est super inspirant pour les gens. Dernièrement, on a vu cette saison qu'ils ont eu comme épreuve de devoir réaliser un trompe-palais avec un plat qui devait imiter la viande. Bah, c'est vrai que ça évolue et je pense que si on fait évoluer l'émission comme ça, avec à la fois des épreuves, à la fois ils font venir des chefs qui sont engagés, qui vont demander par exemple aux candidats de cuisiner un poisson de la tête à la queue, qui vont leur demander de valoriser des restes qui ne sont pas censés être consommés, etc. Ils font cette démonstration et je pense qu'il y a quelque chose de très inspirant là-dedans.
Est-ce qu'il y a par exemple des villes ou des collectivités qui se sont déjà un peu posé des questions sur comment faire pour qu'à une échelle collective, on puisse avoir une alimentation plus durable ?
On peut parler de la commune de Moinsartou, je pense, qui peut vraiment servir de modèle. Il y a vraiment le maire qui est très engagé sur ces questions-là, qui a vraiment réussi à revoir le modèle de la cantine. Actuellement, la commune est entièrement approvisionnée par les agriculteurs du coin et en 100% bio. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est un modèle à suivre et une démonstration que c'est possible aussi à l'échelle des collectivités.
Et vous, si on vous demande, c'est quoi un menu parfait pour vous qui respecte à la fois une alimentation durable, mais qui, en même temps, soit très bon ?
Je pense que ça va être un menu, évidemment, qui est tourné vers le végétal. Peut-être que la protéine animale sera présente, mais sera peut-être secondaire. Donc, on peut imaginer, par exemple, un bouillon, je ne sais pas, qui aurait été fait avec des carcasses de poulet, où on aurait valorisé le goût du poulet. Mais finalement, le poulet, il n'est pas présent dans le bouillon. On a juste extrait le goût du bouillon. Donc, ça pourrait être ça, par exemple, un petit bouillon en entrée. En plat principal, on pourrait imaginer un risotto d'orge perlée, par exemple. Donc, céréales qu'on ne connaît pas forcément. Et petit indice, la recette est dans le livre « Je mange pour le futur ». Et en dessert, on pourrait imaginer justement un dessert sucré à base de légumes secs. Donc moi, il y a une recette que je trouve géniale du chef Régis Marcon qui propose des lentilles qui sont confites dans un sirop épicé, donc comme on pourrait le voir au Japon avec les haricots azuki par exemple, et qui pourrait être mangé avec une chantilly à la cardamome par exemple.
Alors, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'obstacles pour faire évoluer notre alimentation. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne de l'espoir qu'on peut aller dans la bonne direction ?
Comme je le disais, on voit vraiment de plus en plus de chefs qui se positionnent comme des prescripteurs et qui s'engagent réellement sur ces questions-là. On peut parler de Manon Fleury qui vient d'avoir une étoile au Michelin et qui fait la démonstration qu'une alimentation végétale peut être vraiment super diversifiée, super intéressante. En plus, elle travaille directement avec des producteurs qui sont en région parisienne. Donc, il y a vraiment cette valorisation du produit. Je trouve ça super enthousiasmant, ce mouvement-là qu'on voit notamment en cuisine aujourd'hui.
Alors, je ne vais pas vous laisser repartir avant de vous demander, vous, comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que depuis des années que vous travaillez sur ces questions-là, ça vous a fait évoluer dans vos pratiques alimentaires ?
Alors, je mange vraiment beaucoup de légumes secs et peut-être que ma famille en a un petit peu marre. Non, plus sérieusement, sur l'alimentation, évidemment, ça a pas mal impacté mes pratiques. Après, je continue de consommer de la viande. J'en achète plus personnellement, ça m'arrive d'en manger au restaurant. Mais par contre, j'ai modifié mes choix dans le sens où je vais par exemple réserver la consommation de viande de bœuf vraiment à des occasions. J'en consomme vraiment très, très rarement. Du fait que je sois vraiment de plus en plus dans la cuisine, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir justement à aller découvrir des aliments que jusque-là, j'avais jamais consommés. Après, par exemple, sur d'autres types de pratiques, alors on parlait tout à l'heure des vêtements de seconde main, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'achète quasiment plus de vêtements neufs. Donc je me rappelle, il y a quelques années, je m'étais imposé comme quota de pas acheter plus de 5 vêtements neufs par an. C'est marrant parce qu'au début, je le vivais vraiment comme une perte de liberté. Et aujourd'hui, je me rends compte que en fait, j'achète même plus ces 5 vêtements neufs. Donc c'est vrai que ça, je trouve ça assez chouette.
Est-ce qu'il y a de votre côté un livre, une bande dessinée, un film, une œuvre de fiction qui vous a particulièrement inspiré sur ces sujets-là et que vous aimeriez partager ?
Je parlerais peut-être de livres de cuisine. C'est vrai que, alors je pourrais parler d'Otto Lenghi qui commence à être quand même bien connu du grand public, mais malgré tout, il a vraiment réussi un tour de force, de proposer des livres de recettes. Alors, on peut citer Simple, peut-être, pour commencer, qui est vraiment la cuisine du quotidien. Plenty More, qui sont des recettes entièrement végétariennes, sans jamais citer que c'est des recettes végétariennes, où, le plaisir alimentaire est vraiment central et c'est des choses qui sont quand même assez accessibles dans la cuisine de tous les jours. Et en deuxième temps, je pourrais conseiller le livre « Céréales » de Manon Fleury, dont j'ai parlé précédemment, justement qui fait l'apologie des céréales, qui n'est pas vraiment un aliment sur lequel on porte un grand intérêt et qui montre qu'il y a une énorme diversité et que justement, c'est super chouette de s'intéresser à des recettes de cuisine qui mettent en valeur des céréales qu'on ne consomme plus.
Merci Manon Dugré.
Merci à vous.
Ce n'est pas un secret, je m'intéressais beaucoup, beaucoup à l'alimentation avant cet épisode. Pourtant, j'ai appris beaucoup de choses dans cette discussion avec Manon Dugré. La première est cruciale, rééquilibrer nos assiettes avec moins d'animal et plus de végétal. Manon Dugré le dit bien elle-même, il ne s'agit pas de tous devenir végétariens. Mais c'est l'impact le plus direct qu'on peut avoir sur la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. On en avait parlé ici avec la chercheuse Karine Barbier. La moyenne de 85 kg de viande par an et par personne en France est une moyenne trompeuse. Il y a des gens qui mangent très peu de viande et d'autres qui en mangent beaucoup. J'ai fait partie de cette deuxième catégorie et croyez-moi, c'est finalement pas très difficile d'en manger moins, voire beaucoup moins. Là où l'approche de Manon Dugré est intéressante, c'est qu'on peut aller vers des assiettes avec plus de légumes, de céréales, de légumineuses, pas simplement par contrainte, mais aussi parce que c'est bon, c'est meilleur pour la santé, ça permet de tester plein de nouvelles recettes. Et elle explique bien que, pour des pans entiers de la population, venir expliquer qu'ils sont des gros méchants parce qu'ils mangent de la viande et qu'ils aiment le barbecue, ça peut être contre-productif. Alors qu'il y a des manières joyeuses et désirables de changer notre alimentation. Ça me fait penser à ce que disait Éloi Laurent sur la transition heureuse, il y a quelques épisodes de Chaleur humaine. Ce qui m'amène au deuxième point que je retiens de cette conversation, l'idée de diversifier nos assiettes. Il y a un chiffre que je retiens dans ce qu'a dit Manon Dugré. 9 espèces cultivées représentent les 2/3 de la production agricole mondiale. Ça vient en fait d'un rapport de la FAO, l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Ces 9 espèces vont vous surprendre. Il y a bien sûr le riz, le blé, la canne à sucre, le maïs, les patates et le soja. Mais aussi le manioc, la betterave à sucre et le palmier à huile. Alors qu'il existe 6000 plantes cultivées à des fins alimentaires dans le monde. Ça m'a fait penser que moi-même, j'étais pas franchement inventif, que je mangeais trop souvent les mêmes assiettes et qu'il y avait plein de choses chouettes que je pouvais découvrir que je n'avais pas encore essayé. Jusque-là, je regardais le pain à l'épeautre ou l'orge perlée comme des lubies de fans du Moyen-Âge, un peu bizarre. Bon, maintenant, je suis obligé de reconnaître qu'on a tous intérêt à essayer des recettes et des choses nouvelles et de s'en mettre plein les assiettes. Ce que je comprends aussi, c'est qu'une alimentation plus diversifiée, ça permet de préserver la biodiversité et aussi de rendre l'agriculture plus résistante face à tout ce que va nous imposer le changement climatique. Le troisième élément, quand même, c'est de ne pas s'arrêter à cette dimension individuelle. C'est bien de changer ce qu'il y a dans mon assiette. Mais avec ce podcast, je suis bien placé pour savoir que ça ne suffit pas. Il nous faut travailler sur des menus de cantines scolaires et professionnelles, sur la formation des chefs en cuisine, sur la vision collective qu'on a de notre alimentation. C'est là que les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer. D'ailleurs, le signal envoyé pendant la crise agricole au début de l'année 2024, c'est vraiment pas terrible. On pourrait à l'inverse rêver d'une grande campagne d'éducation populaire pour qu'on s'empare tous ensemble du sujet. Je sais pas moi, des grands banquets de quartier ou de village avec peu ou pas de viande, des semaines de l'alimentation joyeuse dans les écoles et les universités, des fêtes de la nourriture du futur qui nous permettent de goûter des menus délicieux et qui nous font envie. Un dernier point peut-être, j'ai bien aimé ce que disait Manon Dugré sur le fait maison. Oui, c'est super de faire soi-même quand on peut. Mais dans la vraie vie et dans notre organisation de vie, on n'a pas toujours le temps. Alors on compose comme un peu avec du frais, des boîtes, du surgelé, des recettes bricolées et c'est pas grave. Sur cette question comme sur toutes les autres, je suis bien sûr preneur de vos avis et de vos témoignages, comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde et un livre du même nom, toujours dispo en librairie. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de cuisiner des légumineuses ou fait saliver devant un risotto au cèpe. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et un ragoût de bémier à la sauce tomate avec du riz. Je crois qu'en français, on appelle ça okra, à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Et si vous en avez marre des mails, vous pouvez aussi m'écrire par courrier ou m'envoyer des colis, si ça vous chante, au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, voilà ce que vous pouvez faire. 1. Vous pouvez vous abonner sur votre application favorite. 2. Vous pouvez le partager à vos amis. 3. Si vous avez plus de temps, vous pouvez ajouter des commentaires et des étoiles. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque-là, puisque vous êtes encore là. Après tout, j'en profite pour vous glisser une petite recette. Et cette fois, elle n'a rien de familial. Elle vient du livre de Manon Dugré et Aurélie Zunino, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. Il s'appelle « Je mange pour le futur ». J'ai pris la recette de falafel aux noix, des falafels pas du tout orthodoxes, qui ne plairaient pas du tout à ma grand-mère, mais il paraît qu'il faut se diversifier et être inventif. C'est moi-même qui l'ai dit il y a quelques minutes. Alors voilà comment on fait. On mélange 40 g d'oignons coupés fins, avec 50 g de noix et des herbes qu'on aime bien, du persil, de l'amande, de la coriandre, ce que vous voulez en fait. On mixe 500 g de pois chiches bien égouttés, et puis on mélange cette pâte avec la préparation oignons et noix. Ensuite, on fait des petites boulettes qui ont toutes à peu près la même taille ou le même poids et on les met au congélateur pendant une heure pour les faire durcir. Après ça, il suffit de passer les boulettes dans un peu de farine, de blanc d'œuf et de la chapelure. Et puis, on fait frire ces boulettes dans une huile de friture bien chaude pendant 2-3 minutes. On les pose ensuite sur du papier absorbant avant de servir. Moi, je crois que je vais essayer avec une sauce au yaourt et à l'ail et une salade de concombre quand ce sera vraiment la saison. Une pensée vraiment sympa pour celles et ceux qui sont restés jusque-là. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous êtes déjà au fourneau ou peut-être que vous y pensez. Merci et à la semaine prochaine.